Il est 11h32 ici à Kinshasa et nous allons aborder la session des questions et des réponses. Et comme le veut notre règle de courtoisie, je vous demande de bien vouloir adresser votre première question à notre invité. Donc une première question pour Madame Bolduc depuis Goma, s'il vous plaît.
Madame Voldic, je m'appelle Frédéric, je travaille pour Radio Sotienji à Goma. Vous avez parlé des tracasseries, vous avez dit qu'il faudrait que les autorités vous arrangent la situation, vous facilitent donc à apporter de l'aide à ceux qui sont en besoin, ces Congolais qui sont déplacés, qui sont en situation humanitaire et désastreuse. Je voudrais savoir ces tracasseries sont de quelle nature? Est-ce que vous pouvez nous les détailler en citant 2, 3, 4, 5?
Je réponds. Oui. Je pense surtout quand je parle à notre capacité de réagir rapidement aux défis qui sont en cours. C'est-à-dire, vous savez que Kakenge a été attaqué par des groupes armés, par la violence intercommunautaire le jour de mon arrivée. Et nous avons maintenant la situation de Bounia, de Djougou, et nous avons des milliers de personnes déjà, 1400 de déplacés qui sont arrivés à Bounia dernièrement. La capacité que nous avons de rediriger immédiatement des réserves pour venir en aide à ces personnes qui doivent manger, dormir et se protéger, cette possibilité-là, nous l'avons quand les règlements administratifs ne sont pas inflexibles. Vous savez que dans les provinces, il y a évidemment une administration qui a des règlements. Ces règlements-là, j'ai demandé à messieurs les gouverneurs à qui j'ai parlé de pouvoir nous en exonérer. Il s'agit évidemment d'avoir un système routier très difficilement praticable. Les camions qui rentrent peuvent s'embourber. Si nous avions de l'aide, par exemple, pour réparer certains tronçons de route, nous arriverons plus vite. Nous pourrons rediriger notre aide. Et l'aide de tous les jours, quand nous arrivons avec les chargements, les camions, les déploiements, quand les autorités nous donnent une aide précieuse, nous arrivons à surmonter, si vous voulez, le travail habituel d'acheminer des vivres. Mais nous prendrions un chemin spécial réservé à ceux qui viennent au secours des populations déplacées.
Donc nous prenons une question ici à Kinshasa pour Madame Bolduc. Oui, monsieur.
Je suis Séraphin Kiremaï de l'Agence congolaise de presse, ACP. Madame, depuis plus de 5 ans, la MONUSCO s'est donnée comme tâche les 3 piliers, stabiliser, protéger, consolider la paix. Il me semble qu'après votre visite, il n'y a eu aucun pilier qui a été atteint. Il n'y a pas de stabilisation, il n'y a pas de protection des personnes parce qu'il y a au moins 1 million et des milliers de personnes déplacées, et la paix n'existe pas non plus. D'après vous, à qui revient la faute?
Merci, monsieur. Je crois que je n'utiliserai pas ce mot de la faute. Je dirais que la responsabilité est une responsabilité conjointe. La MONUSCO est une mission de paix installée en RDC qui a déployé tous les moyens possibles pour venir en aide dans les piliers qu'elle a reçus comme mandat. Mais l'immensité du pays et le nombre de personnes affectées par l'urgence représentent en réalité des défis énormes. Ce que je peux remarquer, c'est que nous avons réussi dans certains endroits, mais il ne s'agit pas simplement de réussir ici et là. C'est un travail conjoint. La responsabilité première revient aux autorités et au gouvernement du pays. Nous ne sommes que des entités qui viennent aider, tant les bailleurs comme nous-mêmes, en solidarité avec la RDC et la population congolaise, nous sommes ici pour ce travail. Mais nous le faisons seulement en appui aux efforts du gouvernement, des autorités et de la population elle-même, la société civile. Merci.
Nous reprenons le cours de cette conférence. On reste ici à Kinshasa avec une question. Oui, monsieur.
Merci pour la parole, Saint-François Katumba. Une préoccupation à Madame Florence. Le colon Chibangu a été extradé à Kinshasa en provenance de la Tanzanie pour son procès qui aura bientôt, qui sera annoncé bientôt par le ministre de la Justice, selon ce qu'il a dit. Est-ce que la MONUSCO va suivre le bon déroulement de ce procès pour faire une réponse à qui des droits?
Alors, je vous confirme que nous suivons ce cas, que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme suit ce cas. Nous appelons à la tenue d'un procès équitable pour Monsieur Chibangu. Nous repartons à Goma pour deux questions, s'il vous plaît.
Oui. Papi Okito du journal Écho d'Opinion. Ma question, je l'adresse à Madame Florence. Madame Florence, certainement, si je vous posais la question de savoir quel est le groupe armé que la MONUSCO a déjà neutralisé en RDC, certainement vous aurez la réponse. Mais le problème, c'est à Ituri, où ça recommence, la guerre recommence entre les ethnies. Est-ce que la MONUSCO sera capable encore une fois de neutraliser ces groupes armés, ou il faut appeler la force Artemis pour venir faire la différence?
Alors, je vais donner un premier élément de réponse. C'est le commandant Adil qui est à Goma complétera, mais je crois qu'il en a déjà parlé dans son propos liminaire. Ce qui se passe actuellement dans cette partie de l'Ituri, c'est un conflit intercommunautaire. Vous faites référence à des groupes armés, donc je vais plutôt faire référence à un conflit intercommunautaire. Alors, que faisons-nous? Ben, évidemment, nous sommes sur place, nous avons une présence dans l'Ituri, et dès dimanche, comme cela a été dit par le porte-parole militaire, la MONUSCO s'est fortement impliquée dans la prise en charge des personnes déplacées qui sont arrivées dans la ville de Bounia. Dès lundi matin, une réunion de crise s'est tenue à la MONUSCO. Lundi après-midi, une mission de reconnaissance aérienne a été effectuée par la MONUSCO afin de faire une évaluation de la situation et de voir quelle pourrait être la réponse que nous allions pouvoir donner. Le chef de bureau de la MONUSCO à Bounia effectue actuellement un travail de bons offices en rencontrant les représentants des communautés et également des autorités de la province. Et Radio Okapi, la radio donc des Nations Unies, commence depuis hier, diffuse des messages d'apaisement à l'endroit de la population. Donc voilà la réponse à la résurgence du conflit de ces derniers jours que la MONUSCO a pu apporter. Commandant, est-ce que vous avez quelques éléments à ajouter?
Donc, votre question, Papi, à deux volets. Donc, je vais commencer avec le deuxième. Vous parlez sur l'éradication des groupes armés. Je pense qu'on était toujours dans une posture d'agir, dans une posture proactive. On ne se contente pas d'observer ce que se passe. Chaque fois où on a une présence militaire, notre patrouille quitte précipitamment, nos unités quittent précipitamment pour venir en aide là où il y a une situation qu'on risque que des civils se tuent. Donc je pense qu'il est toujours difficile de mettre en valeur ce que se marche, et il est plus facile de critiquer et de dire que ce ne marche pas. Donc, nous comprenons ça, nous comprenons les attentes, nous prenons avec un grand sérieux, un grand soin, un grand intérêt les attentes. C'est pour cela qu'on a déjà initié la transformation de la force. On a initié une série de mesures militaires pour être plus agile, pour être plus flexible. Je pense là, durant même cette semaine-là, on était actifs à deux endroits, à Kasaï, au territoire de Mweka, et aussi en Ituri. C'est notre travail quotidien, chaque jour, en plus de patrouilles de routine, en plus de déploiements robustes, en plus des déploiements de bases temporaires. Donc toute une panoplie d'activités militaires qui se passent. Donc je pense c'est vous dire quelques données. Par exemple, l'année dernière, en 2017, la mission a enregistré plus de 19 casques bleus qui ont été tués au service de la paix. Ça représente à peu près le tiers de tous les casques bleus tués dans toutes les missions de maintien de la paix au monde. Donc c'est un chiffre. Là, ça montre l'implication. On est face à un processus de protection de civils très dynamique, complexe, en permanente évolution. On s'adapte à ça. Et la question des groupes armés, je pense que déjà la résolution 2348 a parlé de ça, lorsqu'elle a dit que les motivations des différents grands armées sont variées et une action purement militaire ne peut pas être seule apporter une solution durable à ce problème-là. Donc il y a d'autres dimensions qui doivent être prises en compte, dimensions économiques. Donc on est un acteur parmi beaucoup d'acteurs qui sont là. On fait notre travail, soit dans le cadre de la force, soit dans le cadre de la mission, dans une approche compréhensive. Donc, mais il faut également que des efforts soient faits pour mettre la population à l'abri de ces réseaux d'approvisionnement, des réseaux de recrutement. Donc, aussi entretenir et mettre des mesures de cohésion sociale et communautaire. Le deuxième volet, vous parlez de l'Itourie.
Oui. Est-ce que vous pouvez faire une réponse un petit peu plus courte, parce que je vois que le temps presse et il y a encore beaucoup de questions posées. D'accord. Je vous remercie.
Donc le Litori, c'était pas des groupes armés, c'était des clashs interethniques entre des éléments appartenant aux communautés Lindo et Hema. Donc dès qu'on a eu l'information, on a fait des reconnaissances d'hélicoptères. On a déployé des troupes sur place. Donc on a déjà établi nos plans pour répondre à l'évolution de la situation. Merci.
Nous prenons une autre question à Goma.
Je suis Bernardin de Radio Capi. Je vais encore revenir sur la question sécuritaire en adressant ma question au porte-parole. Deux mois viennent de s'écouler, comme vous savez, depuis l'attaque qui a coûté la vie à 15 casques bleus tanzaniens sur la base MONUSCO de Sembly qui a béni. Et maintenant là, il y a des révélations qui sont faites par les médias, dont la RFI ce matin d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi, et qui font état du manque de réactivité de la part de la FIB pour prévenir cette attaque, malgré le fait que l'alerte avait été donnée par les Tanzaniens quelques heures avant. Et cela, notamment suite à l'absence, selon la RFI, ce jour-là, des pilotes qualifiés pour le vol de nuit. Est-ce qu'il y a des mises au point, par exemple, de la MONUSCO face à ça? Merci.
Alors, en effet, une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l'attaque de la base de Semouliki. Et étant donné la gravité de la situation, le secrétaire général a nommé une équipe qui est dirigée par un ancien haut fonctionnaire de l'ONU, M. Dimitri Titov. L'équipe était en République démocratique du Congo et en Tanzanie courant janvier, et nous attendons que son rapport soit remis à M. Guterres. C'est un processus en cours et il ne nous est pas possible de le commenter pour l'instant. Nous revenons ici à Kinshasa avec une question sur ma droite.
Bonjour. Bonjour, c'est Mireille Poi, ASM Online. Ma question s'adresse à Marshall. Qu'en est-il de l'évolution du procès sur l'assassinat des deux experts de l'ONU?
Alors, concernant l'assassinat des deux experts de l'ONU, le secrétaire général a nommé également une commission d'enquête pour travailler aux côtés des autorités congolaises. Cette commission d'enquête est dirigée par M. Robert Petit, qui travaille avec une équipe dans le Kassai, et actuellement l'équipe est en train de travailler. Monsieur Petit doit régulièrement faire rapport de ses observations et au secrétaire général, qui lui-même doit faire rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies. et tout cela en collaboration avec les autorités congolaises. Donc pour l'instant, le travail de cet expert est en cours et on devrait dans les prochaines semaines avoir les premières observations de cette enquête. Voilà où nous en sommes au moment où je vous parle. Nous restons à Kinshasa pour une autre question. Oui, monsieur.
Merci. Venant vous dire ça de la radio-télévision nationale congolaise. Ma question s'adresse à madame la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous revenez de Nord Kivu, parmi les provinces visitées, et vous avez constaté avec beaucoup de regrets les véhicules qui s'embourbent, donc c'est qu'il y a difficulté de transport. Et cela vous a fait plus peiner. Cependant, quelques jours, il y a le gouverneur de la province du Nord Kivu a émis le vœu de voir la MONUSCO s'intéresser plus outre sa mission de s'intéresser à la paix, de s'intéresser cette fois plus au vélo, au volet développement. Avec votre engagement, et vous êtes aussi la résidente, la coordonnatrice résidente du PNUD, est-ce que ça sera chose faite? Merci.
Je crois que nous sommes tous d'accord pour regarder les problèmes logistiques qui nous empêche en ce moment d'améliorer l'aide que nous apportons. D'ailleurs, la MONUSCO travaille déjà, par les petits projets, par des interventions sur la réparation des routes, dans beaucoup de parties du pays. Je suis aussi déterminée à contribuer les fonds que nous avons pour faciliter l'accès humanitaire, et je crois que c'est une priorité à laquelle il faut s'atteler rapidement. Merci.
Nous repartons à Goma pour une question.
Merci beaucoup. Je suis Patrick Félix Abeli pour CAS Info et RTBS 1. Je vais poser la question concernant le colonel Tshibangu. La MONUSCO, comment vous avez observé cette extradition plutôt? Est-ce qu'a-t-elle respecté les normes du droit international? Et puis par rapport à la détérioration du climat de coopération entre la RDC et la Belgique, quelle est votre analyse, vous, la MONUSCO?
Alors, je vous rappelle que la règle de cette conférence de presse, c'est qu'un journaliste, une question. De toute façon, je ne peux pas commenter le deuxième volet de votre question. Nous ne commentons pas les relations bilatérales entre des pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Pour le cas de Tshibangu, je crois que c'était la première question à laquelle j'ai répondu. En ce qui concerne l'extradition, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme n'a pas été associé aux discussions bilatérales entre la Tanzanie et la République démocratique du Congo sur cette extradition, et le Bureau n'a également pas eu accès à la demande d'extradition. Donc nous ne sommes pas en mesure d'affirmer si cette extradition s'est déroulée dans les règles ou non, dans la mesure où nous n'avons pas eu accès au dossier. Nous revenons ici à Kinshasa. Monsieur, une question.
Merci pour la parole. Monsieur Jean-Pierre Tshisekedi pour le journal Congo de Plumé. Au fait, j'ai suivi successivement les officiels congolais qui, au fait, reproche la MONUSCO. Je vais paraphraser les propos du vice-ministre aux Affaires étrangères qui a dit que la MONUSCO se comporte au Congo comme un État dans un État. Il continue, il dit, ils vont même jusque sur le terrain quand il y a des problèmes sans nous informer. Nous voudrions un peu savoir quelle est la réaction de la MONUSCO.
Alors nous avons entendu ces propos et je peux vous assurer que nous travaillons chaque jour avec les autorités congolaises afin d'optimiser le soutien que nous leur apportons au bénéfice des populations de ce pays. Un soutien qui est décrit de façon précise dans les résolutions du Conseil de sécurité. Je voulais annoncer dans mon propos liminaire, mais je vais y revenir car il s'agit d'un exemple très concret, de la coopération entre la MONUSCO et les autorités de ce pays, puisque hier, le représentant spécial ad intérim du secrétaire général et le ministère de la Défense congolais ont signé le prolongement de l'arrangement technique entre la MONUSCO et le ministère de la Défense en ce qui concerne la coopération entre la mission et les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous repartons à Kinshasa, à Goma, pardon.
C'est Alain Wandimoy, journaliste indépendant. Et moi, je reviens à votre propos liminaire. Vous avez évoqué le dossier autour de la coopération militaire FARDC-MONUSCO. Mais il y a une zone d'ombre qui tourne autour de cette coopération, d'autant plus que lors du lancement des opérations Sokola à Beni du 13 janvier, il y aurait le propos du porte-parole militaire qui a dit que la MONUSCO n'intervient pas à l'opération militaire avec le FARDC. Est-ce que vous pouvez nous éclairer autour de ça? Est-ce que la MONUSCO s'est désistée après ce qui s'était passé à Semouliki? Merci.
Alors, La coopération entre la MONUSCO et les FARDC est donc décrite dans l'accord, dans l'arrangement technique auquel je faisais allusion. Il s'agit pour les états-majors d'avoir un meilleur dialogue et de faire une planification commune. Cela n'implique pas que toutes les opérations menées par les FARDC d'une part et par la MONUSCO d'autre part soient des opérations conjointes. Et il est aussi important de rappeler que cette coopération est soumise à la politique de diligence voulue en matière des droits de l'homme. Donc, avant chaque opération, il y a un screening, une observation, une enquête qui est réalisée sur les forces de sécurité non onusiennes afin de voir si les personnes avec lesquelles la MONUSCO, la mission travaille, les Nations Unies travaillent, puisque cette politique s'applique à l'ensemble des Nations Unies, si ces personnes et ces entités répondent aux normes en matière de respect des droits de l'homme au niveau international. Peut-être que le commandant veut ajouter un complément de réponse.
Donc, je pense que l'essentiel a été déjà dit. Donc, le cadre stratégique, je vais parler du cadre stratégique, c'est qu'il vise deux priorités, qui sont la protection de la population civile par la neutralisation des groupes armés et la stabilisation par la consolidation de l'autorité de l'État. Donc il y a des quatre domaines essentiels de coopération qui sont le support logistique, soutien en combat, soutien en renseignement et support de commande. Je reviens dans deux détails. Le journaliste a dit qu'on ne vient pas au support, donc je vais parler de trois cas concrets qui ont été cette semaine et la semaine dernière où on a engagé nos troupes à Opéra et à Louisa, et on a aussi fourni un support feu lors de l'attaque à Maïmoya. Donc on continue, comme vous dites, c'est une coopération qui doit être en stricte application de la politique de diligence en matière de droits de l'homme. Merci.
Nous revenons ici à Kinshasa avec une question. Oui, monsieur.
Guy Oloume, RTNC2 Développement. Madame Kim Boldu, vous venez de dire que le pays souffle de plusieurs convulsions. Alors, quels sont les critères qui entrent en jeu pour venir en aide urgemment à un coin du pays en difficulté?
Le premier critère qui entre en jeu immédiatement, c'est le nombre de personnes affectées par cette urgence. Notre souci principal, c'est la population. Vous savez que dernièrement, nous avons élevé le niveau d'urgence de 3 provinces au niveau maximum, c'est-à-dire 3. Et ceci concerne les Kasaï, Tanganyika et le Sud Kivu. C'est dans ces provinces-là que la capacité de répondre aux besoins n'est pas encore à la hauteur, pendant que les populations souffrent, se déplacent et ont besoin de recevoir de l'aide. Et quand nous changeons, par exemple, les paramètres de notre intervention, ceci indique évidemment que nous devons avoir plus de ressources, plus de capacités et que ces personnes-là doivent être assistés sur place pour éviter des déplacements supérieurs au niveau de ce que nous voyons déjà. Merci.
Madame Bolduc, il nous reste 3 minutes avant la fin de cette conférence de presse. Est-ce que vous avez quelque chose, un message supplémentaire que vous souhaiteriez faire passer aux journalistes ici à Kinshasa et à ceux de Goma?
Je vous remercie. Je crois que le message à passer, c'est qu'il s'agit pour nous tous de contribuer à aider les personnes qui souffrent de cette situation d'urgence dans le pays. Chacun dans son domaine, nous faisons de l'humanitaire, aidez-nous à donner une lumière plus claire sur ce qui se passe, aidez les personnes qui se sentent oubliées quelquefois parce qu'elles vivent très très loin, à les faire sentir que nous sommes là, que les journalistes s'intéressent à leur sort, qu'il y ait une reconnaissance de l'aide qui est donnée, évidemment, de façon critique, à nous montrer aussi ce qui ne va pas bien pour que nous puissions nous améliorer. Je crois que le dialogue entre nous tous, la coopération entre nous tous, c'est ce qui va nous rendre beaucoup plus efficaces dans le travail que nous devons faire, parce que le pays en a besoin. Merci.
Donc je vous rappelle que Madame Kim Bolduc, représentante spéciale adjointe du secrétaire général, coordonnatrice humanitaire en RDC et coordonnatrice résidente des agences fonds et programmes des Nations Unies, était aujourd'hui l'invitée de cette conférence de presse. Nous l'avons indiqué, elle a préparé, son service a préparé pour vous une fiche synthétique avec toutes les données concernant la situation humanitaire dans le pays. Je voudrais aussi revenir sur une information que j'ai donnée en début de conférence concernant l'appel à la bourse pour les jeunes journalistes entre 25 et 35 ans. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés, ici ou à Goma ou auditeurs dans le reste du pays, n'hésitez pas à se rapprocher de nos services et si on peut vous aider à présenter un bon dossier de candidature, on le fera parce qu'on a tout intérêt à ce que des jeunes journalistes congolais représentent le pays lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies en septembre prochain. Voilà, cette conférence est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Merci beaucoup.